Le droit fonctionne à partir de catégories, donc je vous rappelle les catégories de personnes, de choses, etc., que après on travaille sous forme de sous-catégories, les personnes physiques, les personnes morales, dans les personnes physiques, les capables, les incapables, et ainsi de suite. Or, si on observe les faits de l'histoire des guerres et des colonisations, ainsi que leur fondement et leur justification juridique, telles qu'on les trouve surtout chez les grands internationalistes, mais on peut les retrouver déjà chez les Grecs et les Romains, on rencontre toujours une culture de la catégorisation et de la progressivité. Progressivité des individus chez les internationalistes du XVIIe, XVIIIe, encore XIXe siècle et encore un peu au XXe siècle. On a les Africains, ensuite les Indiens, ensuite les Arabes, ensuite les Chinois, ensuite les Occidentaux, tout en haut d'une sorte de pyramide. On a aussi une progressivité des modes de vie qui est un peu différente. Tout en bas, les nomades. Ensuite, les sédentaires dits primitifs. Ensuite, les sédentaires évolués et les sociétés techniciennes. De même, on a une progressivité des religions. Tout en bas, les païens. Ensuite, les monothéistes non chrétiens. Ensuite, les chrétiens. Donc, vous voyez que vous avez en permanence des catégories et des hiérarchies, des progressivités. Alors évidemment, la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme a poussé à l'extrême cet entremêlement des causes habituelles des guerres, des causes économiques, etc., avec des considérations dites scientifiques sur l'espèce humaine, avec deux grands traits, le racisme d'une part, c'est-à-dire un certain nombre de populations caractérisés par un certain entre-soi, sont considérés comme devant être éliminés, et le racialisme, ce qui est assez différent, qui était en fait l'élimination des handicapés, puisque vous savez que les gaz de l'extermination ont été testés sur les handicapés avant d'être testés sur les populations racisées. Alors, cette guerre fait le départ entre les catégories, enfin du moins le nazisme et d'une certaine manière les Japonais font le départ entre les catégories de population qui doivent vivre et celles qui doivent être purement et simplement éliminées. Et là, ce sont des considérations médicales et plus particulièrement génétiques qui sont au fondement des expérimentations sur l'homme qui furent réalisées comme des camps d'extermination. Alors, en 1948, lorsque le monde s'extirpe de ces récurrences, l'ONU pose le principe de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Alors, retenez bien ce concept de famille humaine, parce que ça permet d'avoir à la fois des différences et l'égale dignité. Sans distinction aucune, donc c'est la première fois qu'on dit que l'humanité n'est pas séparée en populations diverses, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, etc., et de toute autre situation. Donc une catégorie unique, la famille humaine est créée, la science, au lieu d'être le ferment de l'élimination, devient le fondement de l'égalité en droit et démontre que le racisme n'a aucune base scientifique. Ainsi, c'est un exemple parmi d'autres, hein, le préambule et l'article 1 de la déclaration faite par l'UNESCO sur la race et les préjugés raciaux en 1978, c'est-à-dire à une époque où le vieux racisme existe encore comme il existe toujours, mais où les premières élucubrations sur la possibilité de créer de nouvelles populations, de nouvelles espèces, commencent à émerger. Et donc, L'UNESCO énonce le principe de l'unité intrinsèque de l'espèce humaine, et voyez qu'on est passé de la famille humaine, concept très général, à l'espèce humaine, un concept biologique, et par conséquent, l'égalité foncière de tous les êtres humains reflète, dit l'UNESCO, un idéal vers lequel convergent aujourd'hui l'éthique et la science. Or, la formule de 1948 qui fonde l'égale dignité dans la différence paraît aujourd'hui de nouveau très menacée, à la fois par les vieux démons racistes tout à fait traditionnels, mais aussi par les objectifs scientifiques actuels, entre autres, pas uniquement, ceux des transhumanistes, qui font craindre à certains d'être demain les chimpanzés du futur, puisque certains membres de l'espèce humaine auront été volontairement transformés à la fois par eux-mêmes ou par leurs ascendants, ou par un pouvoir quelconque que les transhumanistes récusent, puisque les transhumanistes sont des mouvements libéraux et pour beaucoup libertaires, qui récusent toute possibilité de pouvoir central et de régulation centrale. Maintenant, on sait quelles sont les intentions, on ne sait pas quelles seront les réalisations. Donc, population volontairement transformée, ce qui donnerait lieu à des populations séparées, et ce serait le post-humanisme ou des figures différentes de la post-humanité, des figures éventuellement plurielles de la post-humanité. Alors, qu'est-ce qui va advenir de la construction de l'égalité si certains utilisent la science et les techniques garantes jusqu'à maintenant, à tort ou à raison, de l'unité de l'espèce, précisément pour sortir de l'humanité? Donc, je vais rappeler quelques éléments sur les projets transhumanistes. Alors, certains sont destinés à améliorer les individus ici et maintenant, c'est-à-dire un individu, mais sans possibilité de transmission verticale à la descendance, alors que d'autres sont transmissibles à la descendance. Si je veux résumer, jusqu'à maintenant, j'ai vu quatre directions principales. L'hybridation homme-machine, testée à des fins médicales ou à des fins militaires ou à des fins artistiques, comme ici l'artiste australien Sterlach. C'est une sorte de répétition générale. C'est de nature mécanique, comme l'exosquelette, ou informatique, comme les cyborgs. Là, ici, vous avez des neuropuces. Et la liaison entre cerveau et ordinateur pour augmenter la mémoire, les savoirs, la vision, l'audition, etc. Donc, avec souvent une frontière poreuse entre ce qui a des fins médicales, extrêmement utile évidemment, ce qui a des fins militaires, on en discutera l'utilité, et ce qui a des fins purement à des fins de modification des individus, voire des populations. Mais ici, dans l'ensemble, ça n'est pas transmissible aux générations futures. Alors vous avez aussi les nanorobots qui nettoient et réparent les corps humains. Alors, l'une des voies dans cette hybridation homme-machine, c'est aussi celle de la conservation du cerveau sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire soit sous une forme biologique, soit sous une forme numérisée, censée rejoindre des corps neufs ou des réserves de corps qui seraient des prothèses, en quelque sorte, des prothèses habitables. Dans les projets transhumanistes, il y a ce qu'on oublie très souvent qui est la chimie des sensations et des pulsions, c'est-à-dire garder des populations dans un état de bien-être psychique conduit par des molécules chimiques. Vous avez évidemment, c'est tout à fait central, la génétique pour améliorer le patrimoine génétique de chacun et tout particulièrement de la descendance de chacun. Vous avez aussi les thérapies cellulaires et tissulaires pour remplacer, certains espèrent indéfiniment, les pièces abîmées dans le but d'acquérir l'immortalité revendiquée. Immortalité qui n'est pas revendiquée par tous, hein, c'est une partie seulement des courants transhumanistes. Tout ça recouvre aussi bien l'augmentation de la puissance de l'individu jusqu'à éventuellement son immortalité, que la création de lignées familiales augmentées et donc la question de nouvelles populations, de nouvelles races, de nouvelles espèces. Alors, c'est le projet le plus visible des transhumanistes que de mettre dans le monde des post-humains. L'humain n'étant qu'un composé, je cite, qu'un composé complexe de la matière, fruit d'une longue évolution biologique, dont il ne constitue probablement pas la fin. Il n'y aura plus de corps, mais des supports auto-fabriqués. Alors, ce qui est important, c'est à la fois la notion de support. Vous verrez que au fur et à mesure qu'on pénètre dans les idées transhumanistes, le corps biologique, celui que vous avez ou que j'ai, disparaît de plus en plus pour ne plus être qu'un agrégat assez mal identifié, voire du silicone, tout simplement, mais qui peut se faire le porteur d'informations qui, elles, deviennent l'essentiel. Donc, ce sont des supports auto-fabriqués et tout ce qui va dans le sens de cette auto-fabrication est un progrès. Donc, dans les imaginaires transhumanistes, l'organisation et les rapports entre ces sociétés distinctes, c'est-à-dire les vieilles sociétés et les différentes sociétés nouvelles, sont peu clairs. Est-ce que on va avoir, et est-ce que c'est seulement pendant un temps ou tout le temps, des populations qui restent capables de s'hybrider entre elles? Elles sont interfécondes. Et dans ce cas-là, le risque est un risque classique, si j'ose dire, de racisme, dans un sens ou dans l'autre. Et puis, jusqu'au moment où on aboutit à de nouvelles espèces qui cessent d'être autofécondes avec la vieille humanité, et dans ce cas-là, on aurait éventuellement un risque de spécisme, c'est-à-dire de lutte d'une espèce contre une autre, alors de lutte des espèces laissés sur le carreau, en quelque sorte, de nous pas contents d'avoir des gens qui nous seraient très supérieurs en vitesse de course, en ci, en ça, ou au contraire, dans une perspective beaucoup plus classique, qui est celle des êtres supérieurs se retournant contre les êtres qu'ils estiment être inférieurs. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans les perspectives transhumanistes, on cite toujours les mêmes auteurs, et on cite plutôt tout ce qui concerne l'humanité. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avec des auteurs beaucoup plus confidentiels, qui sont pas du tout nommés transhumanistes, on a des objectifs qui sont très proches, mais qui concernent, je vous donne l'exemple des bactéries, parce que c'est sur cet exemple que j'ai un peu travaillé. Lorsque certains scientifiques entendent prendre en main l'évolution darwinienne pour l'obliger à explorer des pistes nouvelles. Et il en va ainsi, et je vous invite vraiment à regarder ce qui se fait en xénobiologie. La xénobiologie, c'est tout ce qui cherche à rajouter au code génétique universel vous savez que c'est AGTC, molécule AGTC, et tous les êtres vivants sont faits d'AGTC différemment articulés. Mais il n'y a que 4 bases. Or, depuis, je crois que c'est 2014, la première tentative, oui, c'est ça, 2 nouvelles lettres ont été rajoutées à AGTC, et récemment, il y a un mois, je crois, on a annoncé l'ajout à nouveau de 2 nouvelles lettres. Donc, il y a maintenant 4 nouvelles lettres rajoutées au code universel d'AGTC à des bactéries qui sont désormais suffisamment fonctionnelles pour que l'organisme transmette son information génétique avec ces 4 bases nouvelles à la génération suivante. Quel est l'objectif annoncé par les quelques scientifiques, ils ne sont pas très nombreux, qui font ça? Et en France, vous avez un scientifique peu connu, qui est un fanatique de ce mécanisme, qui s'appelle Philippe Marlière, et je vous invite à écouter ses conférences que vous trouvez sur le site du Collège de France, où il explique, à sa façon, qui est assez brillante d'ailleurs, il explique tout ça, et dans lequel il dit, il s'agit de lutter contre le manque d'efficience d'une nature paresseuse qui, en 4 milliards d'années d'évolution, n'a exploré que ces pauvres pistes à 4 lettres, donnant naissance aux organismes sous-optimaux que nous sommes. Vous êtes, moi aussi, un organisme sous-optimal, et il faut explorer des pistes nouvelles, et pour modifier de manière drastique l'évolution darwinienne, il faut rajouter des bases de manière à changer les règles du jeu du vivant. C'est la responsabilité d'Homo sapiens que de chercher du, je cite, radicalement nouveau pour enfin donner à la biosphère la chance de jouir de solutions supérieures en dépassant Darwin. Donc ça s'adresse à des bactéries pour l'instant. Dans l'espèce humaine, finalement, il en irait de même, et la liberté des choix procréatifs individuels conduirait à des types de procréation multiples que le scientifique de haut niveau, d'ailleurs, Warwick, qualifie d'expérimentation globale. Donc, elle implique l'échange généralisé des matériels biologiques et l'allocation d'utérus, en attendant d'avoir un utérus artificiel fonctionnel, et vous savez qu'il a fait énormément de progrès, il y a 2 points qui ont fait de gros progrès depuis 3 ans, je dirais. Il y a d'une part un utérus artificiel, pas du tout sur un mode mécanique, mais par reconstruction d'une sorte d'utérus biologique qui arrive à mener des moutons à maturité, et vous avez des progrès incessants pour faire vivre des fœtus humains nés trop tôt, hein, les grands prématurés, et vous avez d'un autre côté des très grands progrès pour amener des embryons sans arrêt à aller plus loin en termes de nombre de jours sans impact majeur visible en dehors d'un utérus naturel. Donc si vous rejoignez ces deux tentatives qui progressent, vous avez des embryons pouvant aller de plus en plus loin, des fœtus pouvant remonter de plus en plus haut dans la prématurité, et vous avez des utérus artificiels qui sont de plus en plus fonctionnels. Quand vous mettez les 3, vous vous rendez compte qu'on n'est pas très loin du compte. Alors, ce qui est très difficile, me semble-t-il, à admettre, c'est que lorsque vous regardez des revendications qui sont légitimes, revendication par revendication, pour avoir un enfant dans telle ou telle condition, et qui implique effectivement d'avoir des gamètes, des utérus, etc., et que vous regardez les projets transhumanistes de plus près d'un point de vue scientifique, vous vous rendez compte que beaucoup de revendications qui vous paraissent légitimes sont des sortes de volonté embarquée, si j'ose dire. J'ai pas trouvé de mot plus précis, un peu comme vous avez ces fameux journalistes embedded qui sont embarqués à côté des armées et qui évidemment peuvent pas exactement tout voir et peuvent pas exactement tout dire. Donc vous avez des désirs individuels qui sont comme embarqués dans un grand projet que la plupart du temps ils connaissent pas. Et c'est extrêmement difficile, me semble-t-il, d'arriver à faire le lien entre les deux et du coup d'arriver soit à évaluer le projet transhumaniste, soit à évaluer la légitimité des projets individuels. Alors, ce qu'il faut ne jamais oublier, Nick Bostrom le dit très bien, c'est il nous est permis de voir un monde extraordinaire de possibilités, allant d'une félicité éternelle jusqu'à l'extinction de toute forme de vie intelligente, eschatologie techniciste et triomphante pour réparer la honte prométhéenne décrite par Gunther Anders. Alors, je suppose que vous l'avez mis au cœur de vos lectures, hein, évidemment. Donc, cette honte prométhéenne que les transhumanistes promettent de dépasser. Alors, est-ce que c'est la sortie de la honte? Est-ce que c'est un crime contre l'espèce humaine? On va essayer d'avancer dans la réponse à cette question. Si tant est qu'on puisse avancer, en tout cas, on peut y réfléchir. On va passer maintenant qu'on a décrit dans les grandes lignes les projets transhumanistes à leur conception des droits fondamentaux, puisqu'ils ont une conception des droits fondamentaux que l'on trouve, alors du coup je suis complètement perdue, voilà, avec que l'on trouve entre autres, alors dans beaucoup d'articles évidemment, mais entre autres dans la déclaration des droits transhumanistes à laquelle on relie souvent cette illustration. Alors ça repose évidemment sur une sorte d'exacerbation des libertés. Liberté de la recherche et de l'expérimentation, à la fois sur soi-même, parce qu'ils font beaucoup d'expérimentations sur eux-mêmes, et sur sa descendance, ça c'est nettement moins clair, mais en tout cas c'est revendiqué, et ce sont les ingrédients essentiels, en tout cas nécessaires, du projet transhumaniste. Donc, tout repose sur une exacerbation de la notion d'autonomie personnelle, dont vous savez qu'elle vient des droits anglo-américains, parce que dans les droits français, les droits de l'homme français, on avait la notion de liberté, mais on n'avait pas la notion d'autonomie personnelle. Et en fait, l'autonomie personnelle est une sorte de vision exacerbée, avec beaucoup moins de limites, que celle des libertés individuelles. Donc, autonomie personnelle et surtout liberté d'accès aux techniques existantes. Alors, ce sont les glissements incessants des chirurgies reconstructives. Ce qu'il importe de comprendre, c'est que, en fait, on a déjà tout préparé pour accueillir ça. Il faut cesser de voir le transhumanisme comme une rupture. C'est-à-dire, on est déjà dedans, et on est déjà dedans depuis longtemps. Simplement, on ne le sait pas. Et surtout, on est dedans à petits pieds, si j'ose dire, alors que ce qui est proposé, ça a l'air d'être des grandes ruptures. En fait, il n'y a pas besoin de grandes ruptures. On est dedans. Donc, les chirurgies reconstructives liées à l'utilisation de prothèses, c'est très ancien. Et la chirurgie esthétique, tout simplement, a commencé à se développer à la fin du 19e, début du 20e siècle. Simplement, les prothèses sont de plus en plus souvent de type électronique, donc reliées à des intervenants extérieurs, ce qui pose d'ailleurs la question du partage des responsabilités. Si, par exemple, la personne support de celle qui a intégré la prothèse, adopte tout d'un coup des comportements violents, des comportements asociaux. Qui est responsable ? La personne physique n'a pas perdu toute liberté, théoriquement. Le concepteur de l'implant ou celui qui règle la programmation et la programmation du programme d'intelligence artificielle qui est dedans. Ce sont des questions solubles, mais ce sont des questions qui méritent quand même réflexion. Pour arriver à mener à bien le projet transhumaniste, il faut des gamètes. Des gamètes, quand on a le système français, où les gamètes sont gratuites, c'est-à-dire celui qui donne du sperme ou celle qui donne des ovocytes, n'est pas du tout ni rémunéré ni indemnisé. On lui paye simplement, ce qui est quand même un minimum, on lui paye ses déplacements. Si elle a perdu 3 jours de boulot, on lui paye ses 3 jours de boulot, des choses comme ça. Mais il n'y a aucune même indemnisation pour douleur ressentie, parce que dans le cas des ovocytes, c'est pas simple. On prend d'ailleurs des risques. Un homme qui donne son sperme, il prend pas de risque. Une femme qui donne des ovocytes, on lui dit jamais très clairement, mais elle prend des risques. L'idée, c'est que pour l'instant, les gamètes sont très rares en France. Si on veut sortir de la rareté, il faut payer, comme dans un certain nombre de pays, puisque aucun pays n'est arrivé à sortir de la pénurie sans payer plus ou moins cher, et généralement plus le temps passe, plus il faut augmenter les rémunérations, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Alors la solution, on est en train de la trouver, même si probablement on est loin de l'avoir en quotidien, c'est la transformation de cellules somatiques en spermatozoïdes ou en ovocytes. Par exemple, on a réussi désormais à prendre quelques cellules somatiques, les mettre dans des ovaires artificiels de souris et obtenir des ovocytes humains. Donc, cellules somatiques humaines, ovaires artificiels de souris, ovocytes humains ou spermatozoïdes. Les couples de même sexe et les personnes seules n'auraient donc plus besoin de dons de gamètes. Elles pourraient utiliser leurs propres cellules souches pour les produire, ce qui résout un certain nombre de problèmes d'accès ou de problèmes d'anonymat du donneur ou de la donneuse. Alors, c'est pas forcément facile à intégrer pour la descendance, puisque vous pourrez être l'enfant des ovocytes de votre père, ou vous pourrez être même l'enfant des ovocytes et des spermatozoïdes de la même personne, puisqu'il suffit pour une même personne de produire des ovocytes et puis des spermatozoïdes, de faire un embryon, et si c'est une femme, de porter elle-même l'embryon. Donc la femme pourrait être à la fois mère gestatrice, mère ovocytaire et père spermatique. Donc on résout des problèmes, on en crée d'autres. Oui, vous avez l'air de trouver ça compliqué. On y arrive, il suffit de se mettre dedans. Mais surtout, ça, ce sont des projets individuels que je vous décris. Par contre, il peut y avoir des projets de masse, puisque des cellules somatiques, tout le monde en a, rien de plus facile d'avoir accès à des cellules somatiques. Donc, on pourrait produire des gamètes en masse, donc des embryons en masse, et on peut les désolidariser des personnes qui ont été au point de départ. Donc, on peut créer, en quelque sorte, des êtres sans aucune ascendance visible. On voit bien que actuellement il n'y a aucune tentative de mise en œuvre de ces techniques. Par contre, les techniques sont là. Elles ont déjà été réalisées sur la souris et elles sont en cours dans plusieurs laboratoires sur l'être humain. Donc ça va arriver. Vous avez aussi l'utilisation courante conseillée du diagnostic préconceptionnel qui vient d'être conseillé par le rapport Touraine, entre autres, sur la révision des lois de bioéthique. Donc, avoir constamment en tête, même avant de vouloir concevoir, que on a un certain profil, l'autre, si autre il y a un certain profil, etc. Et qu'on doit organiser la conception d'un bébé à partir de ses savoirs. Utilisation courante déjà aujourd'hui du diagnostic préimplantatoire avec des demandes constantes d'extension et de systématicité. Ingénierie des embryons. Bon, vous avez tous vu le cas chinois qui est encore relativement opaque puisque on ne sait pas exactement ce qui a été modifié chez ces embryons. Apparemment, de manière certaine, mais peut-être incomplète, la fameuse résistance au virus du sida. Et en même temps, on parle de facteurs qui amélioreraient l'intelligence. Bon, mais du coup, vous avez le Japon qui a autorisé des expérimentations encore limitées avec interdiction de transfert des embryons, mais il se lance dans l'expérimentation sur la manipulation génétique des embryons humains. C'est en cours aux États-Unis aussi. Alors, ça paraît plus délicat, mais enfin, un certain nombre d'universités s'y sont lancées, etc. Vous avez le droit de chacun d'inventer son propre genre. Vous savez que là aussi, si quelqu'un doit être lu, c'est Donna Haraway, qui depuis les années 60 travaille sur l'auto-réalisation de soi-même et de sa progéniture, l'auto-confection de soi-même, et qui, dans ses derniers travaux, réclame le droit de devenir genre ou devenir non-genre, je traduis mot à mot, c'est-à-dire de se définir, quel que soit son sexe biologique, hein, de se définir comme homme, comme femme, ou comme rien du tout, ou comme trans, ou comme inter, ou comme ce que vous voulez. Et elle a dit, alors ça, dans une interview au Monde récemment, les cis mâles et les cis femelles, ce qu'elle appelle les cis mâles et les cis femelles, sont des gens qui se définissent comme masculins ou comme féminins, auront à l'avenir une place sans doute minoritaire. Non, cis pour dire au contraire, c'est pas des trans. Voilà, opposé à trans, opposé à inter. Donc, des gens qui se revendiquent comme exclusivement mâles ou exclusivement femelles. Vous avez évidemment la médecine anti-âge qui conduit aux revendications d'immortalité, et vous avez aussi, c'est une forte revendication, un peu inaperçue, me semble-t-il, des transhumanistes, enfin de certains d'entre eux, d'avoir droit à l'euthanasie, alors non pas comme fin en soi, mais comme possibilité d'avoir de rester à l'état de cadavre frais, de manière à pouvoir avoir, entre autres, le cerveau, c'est toujours la focalisation sur le cerveau, replacé dans sur d'autres supports. Alors, vous avez l'entreprise Nectom qui travaille là-dessus et qui revendique, du coup, un droit général à l'euthanasie pour que ses clients puissent être cryoconservés juste au moment de la mort. Et alors, quand vous voyez ça avec le développement dans un certain nombre de pays, alors dans un autre, dans une autre perspective, mais d'utiliser le droit à l'euthanasie, par exemple en Belgique, en Hollande, au Canada, pour du vivant de la personne lui demander l'autorisation de prélever ses organes juste au moment de l'euthanasie, vous vous rendez compte que on a des demandes très proches pour des projets qui sont un peu différents, mais qui ont quand même des liens les uns avec les autres. Donc cette idée de cadavre en bon état, en quelque sorte, que permet l'euthanasie, est une idée importante, je crois. Donc, le corps personne tel qu'il existe aujourd'hui devient gênant, même avec la libre interface homme-machine, parce qu'il est de moins en moins nécessaire d'avoir un support corporel aussi personnalisé. Il faut au contraire des supports corporels quelconques, des corps inhabités, disent certains d'entre eux, du silicone sur le modèle des love dolls japonaises, dans lequel on peut charger ce qu'on veut, des organes, des machines, des contenus informationnels, etc. L'objectif final, c'est ça, c'est des supports neutres dans lesquels on peut charger différents objets. Donc en fait, on ne sait plus très bien où est la personne et on ne sait plus du tout où est le corps. Donc, des catégories qui sont des catégories fondamentales du droit sont complètement mises entre parenthèses, en quelque sorte, au profit d'une autoconstruction de quelque chose qui deviendrait probablement la personne, mais qui n'a plus grand-chose à voir avec la personne-corps ou le corps-personne qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Alors, cette extension des libertés, elle va pas de soi, malgré tout. L'article 1 de la Déclaration des droits transhumanistes veut favoriser le développement des recherches à bon escient. Bon, qui va décider ce qui est à bon escient? Je ne sais pas, puisqu'il n'y a pas d'autorité centrale, au lieu d'essayer de les interdire. Mais ce qui est intéressant, ce sont les projets de construction d'îles. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé ça. Ce sont des îles qui s'appellent, j'ai déjà oublié, Floating City Project. Donc ça, c'est imaginé par les géants de la tech. En fait, leur projet, c'était de coloniser la haute mer en y faisant des îles, de manière à profiter du régime de liberté de la haute mer et à faire des regroupements humains volontaires, organisés sur le modèle du marché et qui seraient des sortes de concurrents des seules entités internationales connues, enfin du droit international connu à ce jour, qui sont les États. Et donc, pour se situer en dehors de la sphère des États, le projet était d'aller en haute mer. Malheureusement pour eux, la technique actuelle des îles ne permet pas de résister aux tempêtes de la haute mer. Donc, ils ont fait affaire avec le gouvernement, à mon grand étonnement, avec le gouvernement de Polynésie, pour s'installer, ce qui est une sorte d'étape intermédiaire, dans les atolls polynésiens. Le contenu de l'accord, tel que je l'ai vu, moi, il y a un an et demi, j'ai pas eu le temps de je l'ai pas retrouvé et j'avais pas accès à Internet. En tout cas, il y a un an et demi, le projet c'était que ça ne dépende pas du droit polynésien, donc c'est hors droit, mais il y a un contrat entre les autorités de l'île et le gouvernement de Polynésie sur un certain nombre de points, par exemple, qu'est-ce qu'ils font des déchets, combien de Polynésiens ils emploient, toute une série de points auxquels ils ont pensé. Donc, c'est purement contractuel. Mais ils sont soi-disant, ce qui me paraît anticonstitutionnel, mais c'est autre chose, ils sont soi-disant totalement déliés du droit polynésien. Alors, je sais que après qu'un certain nombre de gens se soient plaints, tout ça a été arrêté et devait être renégocié, mais je ne sais pas où ça en est, je vous invite à aller voir. Mais l'idée, une des idées centrales au départ, outre le fait de ne pas payer d'impôts, etc., etc., enfin des idées assez banales, auxquelles j'adhère tout à fait, l'idée c'était quand même que le droit de l'expérimentation sur l'homme ne s'appliquait pas. C'était dans la demande. On voit bien quand même vers où ça veut aller. Alors, après, le droit d'accès aux techniques pour mettre en œuvre les libertés doit être regardé à l'aune de la fin du particularisme médical. Dans l'article 4 de la Déclaration, les transhumanistes prônent le droit moral de ceux qui le désirent de se servir des technologies pour accroître leur capacité physique, mentale ou reproductive et être ainsi davantage maître de leur propre vie. Nous souhaitons nous épanouir en transcendant nos limites biologiques actuelles. Donc, je vous invite à vraiment vous souvenir de « on s'épanouit en transcendant nos limites biologiques actuelles » parce que ce sont les mots que vous retrouvez dans l'actuel rapport de Jean-Louis Touraine sur la révision des lois de bioéthique, où il se fonde non pas sur les libertés classiques du droit français, mais sur la liberté personnelle et donc, je cite, « l'autonomie de l'individu dans ses choix, tant pour la construction de sa vie familiale que pour l'utilisation de ses données personnelles. » Et il souhaite évidemment l'ouverture régulière de nouvelles possibilités en matière de bioéthique et il fait de l'assistance médicale à la procréation une façon de dépasser les limites biologiques de la procréation. Donc vous avez une identité totale de formulation entre la déclaration des droits des transhumanistes et le rapport d'un de nos députés. Donc, pour Jean-Louis Touraine, le fondement de l'accès à la technique, c'est plus un caractère médical, etc., c'est le désir d'enfant, et plus particulièrement, dit-il, le désir d'enfant en partie biologique, soit la possibilité, alors ça c'est moi qui rajoute, de construire l'enfant par libre ascension, par libre assemblage de ressources biologiques qui seront de plus en plus disponibles via la technique, si on les construit, via le marché, si on ouvre à la rémunération, ce qui va devenir probablement indispensable si on veut vraiment ouvrir l'AMP à de nouveaux bénéficiaires. puisqu'on est déjà en pénurie avec les, et en pénurie importante avec les bénéficiaires actuels. Donc si le fondement du droit devient le dépassement des limites biologiques, point commun entre les deux textes, alors un pas essentiel est franchi dans la confusion entre médecine, normalement destinée aux soins et des pathologies et au contournement des handicaps, entre médecine et technique. Alors certes, la technique peut servir à guérir des pathologies ou à contourner des handicaps, mais ça peut couvrir le spectre absolument infini de tous les désirs. C'est-à-dire, la technique est beaucoup moins limitée qu'est normalement la médecine. Alors cette confusion entre médecine et technique a été entamée dès la définition de la santé étendue au bien-être par l'Organisation mondiale de la santé, et que vous retrouvez dans l'article 7 de la Déclaration des droits transhumanistes. Et dans le cas des procréations en France, et ça depuis le début, c'est-à-dire depuis la première loi de bioéthique en 1994, par le concept cardinal en droit français de projet parental. À partir du moment où l'enfant est le projet de gens qui veulent être ses parents, il n'y a pas de limite au projet parental. Alors, moi j'avais écrit dès 1989 un article qui critiquait la notion de projet parental. J'y suis revenu plusieurs fois par la suite, jusque et y compris dans un article où j'ai montré quels pouvaient être les différents projets parentaux et comment, au bout d'un temps, il pouvait cesser d'être parental, et qu'est-ce qui empêcherait de construire des enfants sans parents pour de tous autres objectifs. Enfin, sans parents au sens de désir parental. Vous avez un très beau livre qui s'appelle « Plus près de toi », je crois, de Yenui Shigori, qui est un, malgré son nom japonais, qui est un auteur anglais, dont je ne sais pas s'il n'a pas eu, il a peut-être eu le prix Nobel de littérature, mais en tout cas c'est un livre absolument magnifique qui décrit le monde d'enfants qui ont été faits pour servir de réserve d'organes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le professeur Edwards, celui qui a inventé la FIV en Angleterre, avait prévu dès l'origine, donc je crois que c'est 78, avait prévu dès l'origine de doter tous les embryons qu'il replaçait, enfin qu'il faisait replacer par l'obstétricien, d'un clone qui lui servirait de réserve d'organes. Donc le projet, qui n'a jamais été mis en œuvre, mais il a été pensé par l'inventeur de la FIV dès l'origine. Et ça, je crois que tout le monde l'a oublié. Mais moi, je l'avais mis dans un article, mais dans une revue conception, fertilité, stérilité. Enfin, c'était un truc pour les... Il faudrait que je reprenne tout ça un jour. C'était un truc pour les obstétriciens, et ça n'a jamais dépassé le milieu des obstétriciens. Et d'ailleurs, parce que ça avait été fait pour un colloque où il y avait des sortes de duels, de joutes oratoires d'un quart d'heure. Donc il y avait eu une joute oratoire entre professeur Edwards et moi, et je lui avais dit, professeur Edwards, vous nous faites changer d'espèce. Et du coup, il avait été totalement décontenancé et il n'avait pas répondu. Sa réponse n'a jamais été publiée. En fait, il avait réussi ni par oral et encore moins par écrit à trouver une réponse. Donc, liberté corporelle et particulièrement procréative, ça fait partie des demandes juridiques des transhumanistes, avec achat de gamètes, si c'est nécessaire, d'utérus, pour donner à chacun la configuration procréative de son choix, liée à une libération des marchés biologiques qui a déjà largement commencé. Quand vous faites un peu le droit comparé de la gestation pour autrui, vous voyez que, par exemple, dans les gestations qui sont faites ou qui étaient faites en Inde, l'utérus, si j'ose dire, était indien, mais comme les parents d'intention étaient américains, anglais, français, etc., il y avait évidemment achat d'ovocytes au Danemark ou aux États-Unis. On n'utilisait pas les ovocytes indiens parce qu'il fallait que l'enfant puisse se mettre dans une famille américaine, anglaise, française. Donc, cette internationalisation du marché des gamètes qui se voit beaucoup, si vous regardez, je ne sais pas, le site de l'entreprise Cryos, qui est l'entreprise danoise, vous pouvez trouver des ovocytes et du sperme de toute origine, de toute couleur de cheveux, de toute, etc., etc. Donc, comment les transhumanistes qui revendiquent des libertés, ça c'est assez simple, qu'est-ce qu'ils font de l'égalité en droit et éventuellement de la dignité? Alors, la dignité, c'est très européen. Il y a un certain nombre de gens, de juristes qui sont très attachés. Moi, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est, puisque ce que je vois, c'est que des opposants à l'euthanasie trouvent que c'est indigne de se faire piquer, et les partisans de l'euthanasie trouvent que c'est la seule façon de mourir dans la dignité. Donc, pour moi, c'est vraiment un concept qu'on peut totalement manipuler, et dont je vois pas vraiment comment on peut lui donner un contenu. Donc, c'est pas moi qui vais défendre la dignité, néanmoins, c'est un sujet de discussion chez les transhumanistes, puisque certains, comme Pinker, attaquent ce qu'il appelle la stupidité de la dignité, concept le plus stupide, etc., alors que Bostrom, lui, s'intéresse à la construction de la dignité du post-humain. Donc vous voyez que chez les transhumanistes, vous pouvez avoir des conceptions différentes, évidemment, mais parfois radicalement opposées, que ce soit sur certains projets ou sur certaines argumentations, disons. Donc, ce que Bostrom essaye de faire, c'est de montrer que la supériorité des post-humains ne serait pas du tout dangereuse pour l'humanité actuelle, dont il fait remarquer à juste titre, et c'est là où il y a l'humiliation profonde de l'humanité, à juste titre encore, l'humanité est pleine de démons, d'assassins, de génocideurs, de racistes, et c'est vrai. Donc, et c'est vrai que c'est difficile de défendre l'humanité. On n'a pas beaucoup d'arguments pour la défendre. On peut pas la défendre, mais on peut pas non plus, il n'y a pas d'intérêt à la détruire. Ce qu'il veut, c'est éviter l'irruption de la violence entre humains non augmentés et post-humains. Alors évidemment, surtout celle des premiers contre les seconds. Il a très peur que les esclaves se révoltent contre les maîtres. Mais il envisage aussi la réciproque. Alors, il dit, et il a raison, c'est peu plausible qu'il y ait des guerres au regard de l'organisation politique et juridique actuelle qui, au fond, s'attache constamment à venir au secours des plus faibles. Et alors, il fait remarquer que tous les exclus du système juridique ancien ont été progressivement inclus dans ce qu'il appelle les sociétés, enfin ce que tout le monde appelle les sociétés inclusives, et il en conclut que dignité humaine et dignité posthumaine sont compatibles et que de toute façon les humains anciens seraient poussés, même sans qu'on les y oblige, à s'intégrer dans le nouveau contexte social et technologique, parce que d'une part ils n'auraient pas vraiment le choix, et que d'autre part ce serait extrêmement séduisant, et que donc ils ne voient pas pourquoi perdureraient des peuplades arriérées, les fameux chimpanzés. Ils ne voient pas très bien pourquoi ça continuerait à exister. Et de ce point de vue, je crois qu'il n'a pas tort. Qu'il s'agisse de chimères, qu'il s'agisse de bébés OGM ou d'enfants au cerveau équipé, ils naîtront par hypothèse égaux en droit avec les non-équipés. Ça avait été parfaitement démontré au moment de tous les débats sur le clonage reproductif. Si un clone naît, il va être un enfant comme les autres. Si un bébé OGM naît, ça peut être plus compliqué si dans son équipement génétique on lui met une antenne ou je ne sais quoi, parce que le clone, ça se voit pas qu'il est un clone. Le bébé OGM, à la limite, ça peut se voir. Mais c'est un peu plus compliqué, mais ce sera dans la logique juridique actuelle. Alors, en revanche, comment, à long terme, éviter que les post-humains trouvent que les humains finissent par prendre trop de place, occupent des terrains intéressants, des maisons qui pourraient être récupérées ou je ne sais quoi, ça c'est plus compliqué d'être d'accord avec lui. Alors, pour finir, je trouve que les réponses, y compris celles du droit français, qui est encore à l'heure actuelle un des plus protecteurs, disons, contre les projets transhumanistes, les réponses sont extrêmement fragiles à l'heure actuelle, et elles ont déjà été fragilisées par l'évolution du droit de la bioéthique, et elles sont désormais idéologiquement très menacées. Alors, on va passer très vite sur la liberté morphologique. Théoriquement, l'article 16.3 du Code civil déclare qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Je vous rappelle qu'à l'origine, c'était la nécessité thérapeutique. Ça a été changé très rapidement en médical, ce qui est beaucoup plus large, puisque des interventions qui sont utiles, telles les stérilisations à visée contraceptive, sont autorisées alors qu'elles étaient interdites, mais on aurait peut-être pu les autoriser sans changer le concept, à titre d'exception. Mais cela concerne aussi l'extension illimitée de la chirurgie esthétique. Maintenant, il est courant d'offrir à une jeune fille pour ses 18 ans l'amélioration de ses seins. Enfin, maintenant, c'est normal. Ça fait partie des soins du corps que de se faire raccourcir, allonger, changer, etc. Même chose, enfin, sans parler des tatouages. Aujourd'hui, les gens sculptent, beaucoup de gens sculptent leur corps avec la même bonne, le même soin qu'on a mis à se laver. Bon, moi, qui est maintenant plus de 70 ans, j'ai connu une époque où se laver tous les jours était bizarre. Maintenant, c'est pas se laver tous les jours qui est bizarre. Se laver les cheveux, ma mère se lavait les cheveux quand elle était jeune, disait qu'elle se lavait les cheveux une fois par mois. Maintenant, les gens qui se lavent les cheveux une fois par mois, c'est bizarre. Et ainsi de suite. Donc, le soin qu'on a de soi-même, qui est une façon de se respecter, passe maintenant par la chirurgie esthétique, le tatouage, etc. Alors, ces pratiques sont reliées à une double finalité, le bien-être, qui fait désormais partie intégrante de la médecine, et la volonté de construire son corps pour le rapprocher en général de modèles très normés, hein, mais aussi de l'inventer par des déformations volontaires. Par exemple, au Brésil, j'avais visité des cabinets de chirurgie esthétique qui étaient spécialisés dans les visages félins. Donc, on augmentait les pommettes, on cassait la mâchoire, pour donner un visage félin avec de très larges pommettes et un menton très effacé, évidemment les yeux en chat, et c'était extrêmement à la mode dans les milieux les plus branchés. Bon, et vous avez évidemment les artistes performeurs, comme Orlan, qui est la plus connue, qui a fait filmer une dizaine d'interventions chirurgicales à des fins artistiques, par exemple pour se faire sculpter des sortes de cornes sur le front. Donc vous tapez Orlan, vous trouvez toutes les opérations. Alors je ne sais pas où elle les a faites, parce qu'en France, normalement, c'est interdit. Il faut s'arrêter sur la liberté procréative actuellement très contrainte en France, puisque c'est à des fins purement médicales pour un couple, donc pas des personnes seules, formé d'un homme et d'une femme, donc pas des couples de même sexe, entre personnes vivantes, donc pas de procréation posthume, et en âge de procréer, donc pas des vieillards. Par exemple, j'ai vu là un bébé dans les bras d'une indienne de 80 ans qui avait porté cet enfant à 80 ans. C'est pas évident, c'est dangereux, mais c'est possible, avec don d'ovocytes, évidemment. Donc, déjà, pour l'instant, le projet parental est extrêmement, il existe, il est au fondement de la loi, mais il est extrêmement limité. Alors évidemment, il y a la demande d'ouverture aujourd'hui. Actuellement, les gamètes sont protégés juridiquement par leur finalité strictement médicale. Vous ne pouvez pas vous acheter des spermatozoïdes pour les faire nager dans votre aquarium ou des choses comme ça. Par contre, aux États-Unis, ça c'est la peau tatouée. Voilà. Alors, elle est pas très bien ma photo. Donc ça c'est du caviar d'ovocyte de Madame Chrissy Codin. Voilà, 12 œufs humains, un par peau. Voilà, ça c'est une performance de. Et elle vend ça très cher. Bon, en France, c'est pas possible à l'heure actuelle. Hein? Donc, la pénurie est aujourd'hui bien, bien évidente. Il faut au moins un an à un an et demi pour disposer de paillettes de sperme quand on est dans toutes les conditions légales. Donc, si on ouvre, on ne sait pas très bien comment on fera. Donc, il y a des tas de projets assez discrets à l'heure actuelle pour trouver les moyens d'indemniser les donneurs de gamètes. Mais l'avenir est beaucoup plus à leur fabrication. Donc, ces gamètes sont des choses, ça, il n'y a pas de question. Et alors que aujourd'hui en France, le régime juridique est très particulier, très restrictif, donc théoriquement, ça ne devrait pas être des biens, ça ne devrait pas... Mais on n'a jamais fait l'effort de les qualifier. On n'a jamais fait l'effort de leur donner, d'associer le régime juridique qu'on avait mis au point à une catégorie juridique. On avait été plusieurs à proposer que ce soit qu'il y ait une catégorie chose d'origine humaine, qui soit indisponible dans les conditions, qui soit évidemment disponible, j'ai tort de dire indisponible, mais qui ne soit disponible que dans des conditions très particulières, gratuites, par des institutions publiques, etc., etc. Il en va de même de l'expérimentation sur les embryons in vitro. C'est pareil. Là, pour le coup, le législateur avait fait un effort en créant la catégorie d'être humain qui n'est pas une personne. Donc, c'était une tierce catégorie, ni personne juridique, parce qu'il faut être né pour être une personne juridique, ni une chose. Et le régime juridique très particulier de l'embryon faisait que on avait vraiment une catégorie avec un régime juridique qui avait des éléments caractéristiques de la chose et des éléments caractéristiques de la personne. Mais quels sont les juristes? Alors d'abord, le Conseil constitutionnel s'est empressé de dire que les embryons in vitro, c'était rien, immédiatement. Et d'autre part, quels sont les gens de la doctrine qui ont essayé de montrer qu'il y avait une catégorie et un régime? Il doit y avoir trois personnes. Il me semble qu'il y a Bioy. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, et il y a Pierre Murat. En dehors, je ne vois pas trop. Vous vous rendez compte que même lorsque le législateur a fait l'effort, ça n'imprime pas. Alors, dernier point, le crime contre l'espèce humaine. Alors ça, c'est propre au droit français. Et d'une part, le Code civil interdit les pratiques eugéniques et les manipulations génétiques germinales, c'est-à-dire transmissibles à la descendance. Et d'autre part, le législateur a inventé un crime contre l'espèce humaine faisant entrer l'espèce dans l'ordre juridique. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a été très critiqué, parce qu'on a fait rentrer, on a biologisé le droit. Bon, moi j'ai été mesurée dans mes critiques, mais je trouvais effectivement que cette introduction de l'espèce humaine, ça ne me parlait pas. Et j'avais tort. Je suis revenue d'ailleurs sur ces appréciations. Et je pense au contraire que... c'était absolument nécessaire étant donné les possibilités techniques. Lorsqu'on a de nouvelles possibilités techniques, on est parfois contraint de prendre le problème à bras le corps et de trouver une solution. En manipulant les embryons, d'une certaine manière en faisant du diagnostic préimplantatoire à grande échelle, mais ça je suppose que Jacques Testard vous en a beaucoup parlé, mais avec les deux techniques, en tout cas, on peut changer le cours de l'espèce humaine. Donc, si on peut le faire, ben, il faut le reconnaître dans le système juridique. Et j'ai changé d'avis parce que je me suis dit, au fond, étant donné de la même manière que la personne a un corps et a droit au respect de son corps et a droit à l'intégrité physique, De la même manière, l'humanité a droit au respect de son corps, et le corps de l'humanité, c'est l'espèce. Donc j'ai finalement été obligée, en faisant ce parallèle entre personne, corps, humanité, espèce, qui est l'expression biologique de l'humanité, j'ai été amenée à changer d'avis. Alors je voudrais terminer sur un point. Quand on a légalisé l'insémination artificielle avec donneur, alors ça s'est fait en réalité dans les années 70 par la voie d'arrêté, mais ça a été légalisé en 1994. Il a fallu finalement attendre une trentaine d'années pour que les enfants nés, certains enfants et une minorité d'enfants nés par insémination artificielle avec donneur demandent des comptes à la société. Donc, je suppose que vous êtes un certain nombre à avoir lu les témoignages de, comment il s'appelle, Raphaël et Audrey, enfin, tous ceux de l'association PMA anonyme, je ne me souviens plus, je peux le retrouver, ont demandé des comptes en disant, moi, j'aime beaucoup mon père social, j'ai rien contre lui, bien au contraire, il m'accompagne dans ma recherche, etc. Mais il me manque quelque chose. Je ne suis pas née de deux personnes, je suis née de trois personnes. Et la troisième personne, je veux la connaître. Ça a été au début, je veux des informations, ça a été après, je veux la connaître. Ils ont mis 30 ans à s'exprimer. Je pense que tous ceux qui vont naître dans des conditions de plus en plus loin de la réalité banale de l'acte de procréation biologique. Alors peut-être qu'on va passer à un monde complètement différent. C'est possible. En tout cas, on n'y passera pas du jour au lendemain. Et entre-temps, il y aura des enfants qui vont demander des comptes. Je pense que ce qui est le plus étonnant, me semble-t-il, on le trouve toujours dans le rapport Touraine. Voilà ce qu'il dit. Je cite Madame Dominique Mel. Alors, Dominique Mel, c'est une sociologue qui milite depuis 30 ans pour la reconnaissance des nouvelles familles, du droit aux ovocytes, à la GPA, ci, à ça, etc. Madame Dominique Mel fait remarquer que les années passées, depuis l'institutionnalisation de l'insémination avec tiers donneur, ont vu apparaître un nouvel acteur concerné au premier chef, l'enfant issu du don. Donc voilà quelqu'un qui travaille depuis 30 ans là-dessus, et qui découvre qu'il y a des enfants issus du don. 30 ans après. Alors là, j'avoue que j'ai été assez stupéfaite. Et Touraine dit, il faut faire attention à ce qu'elle dit, effectivement. Il y a des enfants issus du don. Quand j'étais au comité d'éthique, et qu'en travaillant sur tout ça, on était quelques-uns à essayer de dire... D'accord, on ouvre, mais comment vous voyez les revendications des enfants? On voit bien que un tel et un tel de l'association PMA anonyme, ils font des revendications, donc il faut essayer de ne pas recommencer ce qu'on a mal fait apparemment à l'origine, et il faut essayer d'en tenir compte tout de suite. Eh ben, on me répondait systématiquement, mais il n'est pas question des enfants, de toute façon ils seront aimés, donc il n'y a pas de problème. Nous, on doit s'occuper des parents. Alors, vous voyez, ça coïncide exactement avec cette remarque de quelqu'un qui travaille depuis 30 ans là-dessus, et qui dit, j'ai vu apparaître un nouvel acteur. Donc, moi ce que je veux dire, par cette conclusion, c'est que des choses qui paraissent étape par étape, au fond, un peu anodines, un peu passer déjà en cours, un peu ceci, un peu légitime, un peu tout ce que vous voulez, et qui font qu'on va très vite vers tout ça. Le bon sens fait du bête bon sens, hein, parce que se rendre compte qu'il y a des enfants qui naissent de ça, c'est quand même du bon sens. Le bête bon sens conduit quand même à se poser quelques questions, or il est interdit de les poser. Donc c'est là-dessus que je voudrais terminer cette première approche très très générale des mouvements transhumanistes, tout en sachant très bien que il aurait fallu, qu'un autre rapport serait nécessaire rapidement, qui serait celui, mais je pense qu'il faut mieux passer par un sociologue, des différents mouvements transhumanistes, parce que j'ai essayé de vous montrer à plusieurs reprises qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout. Si vous prenez le mouvement français, il vous parle sécurité sociale, les mouvements libertaires américains, ça les fait bondir. Donc il y a des courants de pensée qui sont différents derrière les grands traits communs que j'ai essayé de dégager là. Alors j'ai essayé de dégager les traits communs tout en mentionnant qu'il y avait des courants de pensée, mais il faut évidemment, une des premières choses à faire maintenant, c'est d'aller plus avant dans la différence des courants de pensée. Je vous remercie.